pas manchiste. Thierry Gauthier.
Paul Renard.
Alors nous retrouvons comme tous les 15 jours pour faire le point sur l'action contre les gaz de schiste qui c'est beaucoup plus étendu à d'autres gisements également non conventionnels mais ou conventionnels avec une technique de fracturation.
Exactement.
Voilà, et on va faire commencer par un point de presse parce que finalement on s'est beaucoup réjoui de l'abrogation des permis le 3 octobre dernier sur le permis de Montélimar et celui de Villeneuve-de-Berg, mais Total ferait un recours gracieux. C'est dans la tribune du 21 novembre qu'un article relayé qui a été pris dans l'usine nouvelle du 7 novembre. On peut avoir un élément sur ce nouveau rebondissement.
Voilà, donc on le disait au cours des précédentes émissions, le permis de Total n'est pas en infraction avec la loi. Donc il n'était pas légalement abrogeable. Ce qu'on disait, c'est que il y avait des chances que Total soit plus ou moins de connivence avec les présidentiables et que dans ce cas-là, il n'attaquerait pas les permis.
Il leur fout la paix, quoi.
Voilà. Mais donc, il semblerait que ce soit pas le cas, puisque Total a 4 mois pour déposer un recours. L'abrogation date du 14 septembre, donc Total jusqu'au 14 janvier. La procédure ensuite, c'est que les recours, donc on dépose d'abord un recours gracieux, en fait. Qui permet, en fait, qui est bien souvent refusé, mais qui permet de prolonger le délai, en fait.
Qui est en recours auprès des ministères de l'énergie et de l'environnement qui ont signé la décision.
Voilà, c'est ça. Et donc, ce recours gracieux permet de prolonger
date butoir.
Et ensuite, on dépose un recours, contentieux.
Qui vous rallonge 2 mois après cette notification de reçu.
Et ensuite, il y a un recours contentieux. Et vu le texte qu'avait déposé Total, il y a de fortes chances que ce recours aboutisse, quoi. Il est difficilement imaginable qu'il n'aboutisse pas, quoi.
Voilà, sauf que l'État pourrait jouer la montre et laisser Total aller au tribunal administratif aussi.
Oui.
Ce qui durerait un peu plus longtemps, finalement.
Disons qu'ils iraient au tribunal administratif, donc s'ils déposent le recours fin décembre, début janvier, ils iraient fin mars au tribunal administratif, mais en même temps, c'est pas dans le timing des élections présidentielles, c'est peut-être pas bon. Ouais. Pour tout le monde.
Donc, il faut vraiment rester vigilant. Hein.
De toute façon, on l'a dit depuis le début, ce permis de Total, il a été abrogé. C'est un geste politique, mais légalement, ça n'est pas tenable.
Ce n'est pas tenable et ce n'est pas définitif.
Voilà.
Autre actualité également que j'ai vue dans l'ensemble des parutions que vous faites et que vous envoyez sur votre site internet, c'est les tremblements de terre, la liaison finalement plus que probable avec les tremblements de terre. Et on prend des exemples finalement aux États-Unis avec des tremblements de terre 20 fois plus nombreux qu'auparavant. On peut parler de cette chose également qui est assez étonnante.
Voilà, oui. Donc sur le permis de Barnett, par exemple, aux États-Unis, on a enregistré plus de 1000 chocs, ils s'appellent en fait 1000 tremblements de terre, donc entre 3 et 3,2 sur l'échelle de Richter, dans une région où il y en avait une vingtaine, entre 20 et 50.
Donc c'est énorme,
donc,
la fois plus.
C'est énorme. On trouve le même problème en Pennsylvanie, dans l'Oklahoma. On trouve il y a eu un problème de ce genre aux États-Unis, en Grande-Bretagne aussi. Donc c'est vraiment, en même temps, ça paraît assez logique, quoi. On fait une explosion souterraine qui sur une longueur d'un kilomètre, qui réduit la roche en poudre sur un rayon de 100 à 200 mètres de large à 3 kilomètres sous terre.
Donc on crée un vide.
Voilà, on crée un vide. C'est une explosion qui correspond à une secousse de 2,5 à 3,5 sur l'échelle de Richter.
C'est à peu près
difficilement imaginable qu'il n'y ait pas de conséquences en surface, quoi.
Mais ce qui est très surprenant, c'est que dans cet article, on voit que semble-t-il un séisme de magnitude 5,6 en Oklahoma, c'est quand même, il me semble, le séisme pris en compte pour la centrale nucléaire de Tricastin. Ça me paraît énorme.
La centrale de Tricastin est construite pour résister à un séisme de 5,2.
5,2, voilà. Oui, c'est un mot dessus. Donc, voilà. Vous voulez dire que Total ferait sauter la centrale nucléaire de Tricastin
Peut-être que Total trouve que la concurrence du nucléaire est trop forte et voudrait s'en débarrasser.
Donc, ça, c'est une chose qu'on avait beaucoup vue dans vos réunions et beaucoup de gens avaient des doutes, mais maintenant, on a vraiment des preuves. En plus, je crois que c'était un rapport de l'armée américaine et l'United States Geology Survey qui fait le lien de cause à effet entre l'augmentation inquiétante de l'activité sismique et l'exploitation des gaz de schiste. Voilà, le lien est fait par des...
Le Bureau d'études de l'environnement fédéral américain fait aussi le lien, quoi, en fait.
Voilà, voilà. Donc ça,
on est vraiment certain de ça, quoi, en fait, de ses conséquences.
Tout à fait. J'ai vu également que votre position également va beaucoup plus loin que simplement les gaz de schiste. Rappelons que des schistes sont des formations géologiques, qu'on peut faire une extension simplement en parlant plus de roches mères poreuses mais non perméables, c'est-à-dire que le fluide ne circule pas.
Voilà, oui. En fait, donc, il faut définir, déjà, on a cherché à définir, parce que les pétroliers nous enfument souvent avec les termes différents qu'ils emploient. Donc, on a donné comme mission à la commission scientifique du collectif de définir déjà ce qu'étaient les gaz et huiles conventionnelles et non conventionnelles. En fait, donc, ce ne sont pas les gaz et les huiles qui sont conventionnelles ou non conventionnelles, c'est le bassin qui est conventionnel ou non conventionnel. C'est-à-dire la roche, l'endroit où on va les chercher, quoi. Le gaz, c'est toujours du méthane.
Ça reste du gaz qui,
c'est toujours du méthane. Donc, le conventionnel, c'est du gaz ou du pétrole qui est prisonnier d'une roche très poreuse. C'est-à-dire que si on va creuser, on creuse au milieu de cette roche, on aspire, ça vient. Voilà.
Qu'est-ce que veut dire le terme conventionnel ? C'est-à-dire pas commun, pas habituel, c'est ça, non ?
C'est à extraire avec des méthodes particulières, voilà. Dont la fracturation.
Ouais, c'est ça, voilà.
C'est-à-dire, c'est l'obligation de fracturer. Donc, plus on va vers des roches de densité importante et moins poreuses, plus il va falloir fracturer cette roche pour en extraire le gaz ou le pétrole.
Tout à fait, ouais.
Donc la limite entre le conventionnel et le non conventionnel est là. Il y a une deuxième série d'hydrocarbures qu'on va classer dans le non conventionnel. Ce sont les huiles lourdes, en fait. Les huiles lourdes, elles sont beaucoup moins profondes que les huiles et les gaz de schiste. Ce sont des couches beaucoup moins profondes. Ce sont des huiles qui sont en cours de fabrication, en fait. En cours de maturation. Il leur faudra encore un bon millier d'années pour devenir des pétroles ou des gaz prêts à être extraits. Ces huiles, elles sont donc très épaisses. Ça se présente sous une forme comme du goudron. Et en fait, pour les extraire, les foreurs ont imaginé plusieurs méthodes.
Ils jouent le jeu de la nature et en très peu de temps,
ils
font ce que la
jours,
nature...
Voilà.
En 4 jours, oui.
En 4 jours, 4 jours, 15 jours. Voilà. Donc, il y a plusieurs méthodes. Il y a de la fracturation électrique qui permet de chauffer très fortement le pétrole ou des injections de vapeur. Et donc, à partir de là, ensuite, on peut extraire, il est suffisamment liquide pour qu'on l'extrait, et on le retraite en surface, et on a un pétrole utilisable. Donc, c'est aussi des méthodes qui sont très proches de la fracturation, quoi.
Et cette méthode à base de vapeur, je vois l'intervention de M. Combes qui dit que Total propose de construire des centrales nucléaires à côté des puits d'huile lourdes pour produire la vapeur d'eau nécessaire. C'est quoi ça?
Oui, parce que ce qu'il y a, c'est que on imagine que si on a un grand gisement d'huile lourde, en fait, si on veut envoyer de la vapeur pour transformer cette huile, il va falloir des centrales vapeur énormes. Donc, la production de la vapeur, si c'est le foreur qui va la produire,
ça va lui coûter cher,
et il va falloir qu'il investisse énormément d'énergie, et qu'il va en investir peut-être autant qu'il va en récupérer, donc c'est pas une opération rentable. Si c'est quelqu'un d'autre qui lui donne la vapeur, il est gagnant-gagnant.
Pour le nucléaire, le déchet, c'est la vapeur, c'est un déchet.
Il faut des tours pour
l'extraire. Ça part dans les tomates, d'ailleurs, ça part dans beaucoup de choses comme ça. Vous voulez dire que donc, on peut avoir la double peine, c'est-à-dire le nucléaire et le gaz de schiste, et les huiles de schiste.
Oui, mais enfin, ça paraît fort peu probable, parce que c'est presque de la science-fiction, là.
Donc, en allant plus en détail dans l'étude des différents hydrocarbures, on comprend que votre combat, celui du collectif, ne s'arrête pas simplement au gaz de schiste, mais finalement, on peut se repositionner de façon plus générale sur les énergies dites fossiles.
Sur les énergies fossiles dont l'extraction pose des problèmes.
Voilà, de fossiles non conventionnels.
Voilà, mais en même temps, on sait que le conventionnel, on arrive au bout.
Tout a été fait. Voilà.
Et tout ce qui est extrait aujourd'hui, même les pétroliers nous disent que dans les puits de pétrole standard ou dans les zones où ils extraient du gaz, ils font de la fracturation. Parce que ces puits arrivent en fin de vie, et en fait, pour en extraire les dernières gouttes, ils font de la fracturation. Donc, à partir de là, on est dans la contamination.
Oui, parce que j'ai vu effectivement la fracturation permettait à un puits qui produit 25%, avec des fracturations, on le remonte à 40%, quoi. Pendant très peu de temps.
On remonte à 40% pendant très peu de temps, mais en même temps, le forage extrait quelques barils de plus et gagne quelques argent de plus.
On ne parle pas encore des conséquences, mais dernière chose que je voulais aussi voir, j'ai vu passer des documents qui parlent de l'injection de CO2 dans ces gisements pour remplacer des vides qu'on a fait. Alors c'est quoi cette technique? Ça veut dire quoi? C'est impressionnant, ça, encore.
Ça veut dire quoi? C'est tout ça, c'est aussi de l'enfumage, quoi, parce que en fait,
de CO2.
Alors en ce moment, il y a donc un gros problème avec le CO2 qu'on produit. On sait pas, on doit le stocker et on sait pas quoi en faire. Les foreurs ont dit non, mais nous on va s'en occuper, laissez-nous faire. On vide une poche dans laquelle il y a du gaz ou du pétrole, et à la place, comme ça nous fait un réservoir pour stocker le CO2. Et faites-nous confiance, on va bétonner tout ça, ça va marcher, ça va tenir, on est tranquille pendant des centaines d'années.
On peut avoir d'autres problèmes de la même façon, voilà.
On a du mal à leur faire confiance.
Et c'est vrai que j'ai l'impression que maintenant les pétroliers relient l'extraction de ces hydrocarbures non conventionnels à la possibilité, dans ces gisements, de mettre du CO2, donc de rendre service un peu à l'atmosphère, à la nature. Voilà. Sauf qu'on oublie que ce gaz, ce méthane, est beaucoup plus dangereux que le CO2
Ils vont sortir du gaz, sortir du pétrole pour produire du CO2, et en même temps ils vont nous dire qu'ils stockent du CO2. Donc ils essayent de se donner une image écolo. Ils vont vraiment avoir du mal, quoi.
Non, parce que c'est vrai que je vois que les dossiers sont très très. Vous êtes très au courant des dossiers, et c'est vrai que on voit un certain nombre de contradictions des pétroliers, et même si les foreurs font des. J'ai vu un article également sur les foreurs, l'amicale des foreurs. Produire notre gaz, c'est participer à la réduction de notre dette. Français, faites-nous confiance, nous savons le faire proprement. C'est un sacré message.
Voilà, et en fait, il lance en ligne une pétition en ligne.
Ah oui.
Oh oui, justement, c'est le message. Ce message que vous venez de lire, c'est l'entête d'une pétition qu'il lance en ligne pour les gaz de schiste. Quoi.
D'accord,
voilà.
D'accord.
Pour les huiles et gaz de schiste.
Alors, revenons aux pétitions du collectif 07.
Hein, oui.
Et parlons justement du repositionnement maintenant du collectif par rapport à son action initiale, qui était celle de l'abrogation des permis Montélimar, Vildenberg, et bien sûr des autres permis. Vous allez beaucoup plus loin maintenant, ce qui est intéressant dans notre nouveau combat.
Maintenant, ce qu'on dit... par rapport à tout ce que je viens de vous dire, quoi. En fait, on a donc cherché à définir exactement ce qu'étaient ces gaz et ces huiles que nous proposaient d'extraire les foreurs. Et donc, nous maintenant, ce qu'on dit, au lieu de se positionner contre gaz et huiles de schiste, on dit qu'on exige l'interdiction, et je vais vous le lire pour être sûr de bien vous dire, donner la formule, on exige donc l'interdiction de toute technique, quel que soit son nom, nécessitant de fracturer, stimuler ou encore fissurer la roche, et ayant pour conséquence de porter atteinte à son intégrité pour en extraire des hydrocarbures dits de roche mère, huile lourde, gaz de charbon, gaz de schiste, etc. Voilà. Donc, on se bat contre tout ce que les foreurs veulent faire de polluant, quoi. Voilà.
Et oui, parce que toutes ces méthodes, toutes ces techniques, même les nouvelles qui ressortent, à chaque fois, effectivement, posent des problèmes d'environnement, et puis précisément le problème de l'eau. Hein. On rappellera qu'aujourd'hui, Danielle Mitterrand nous a quittés. Elle était une grande militante engagée depuis des années, et sur le combat de l'eau encore plus récemment.
Voilà, sur le combat de l'eau récemment, et elle s'était prononcée... pour notre lutte, quoi, contre les gaz de schiste, et avait même organisé pour nous la prise en charge l'organisation de la manifestation qui avait été montée au mois de juin lors du vote de la loi devant l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, voilà, elle avait donc été vraiment
un petit hommage, parce que c'est vrai que c'est les futures guerres, elles sont liées de l'eau dans le monde entier. Alors,
évidemment.
Justement, la ressource en eau dans nos pays du Sud, elle est fragile. Oui. Elle est fragile. Elle est déjà polluée en partie. Et donc, c'est vrai que le problème de toute l'exploitation de ces ressources compliquées maintenant à extraire, eh bien, sont toujours énergivores et surtout polluantes, gourmandes en eau. On peut donner, je crois que pour un baril d'hydrocarbures, on arrive effectivement à 3-4 barils ou 10 barils d'eau.
Voilà. Oui.
Donc le collectif donc va un peu plus loin maintenant et décide par exemple de lancer des débats citoyens dans lesquels les gens prendraient en main finalement leur avenir énergétique, parce que c'est pas le tout d'être contre effectivement le gaz ou le pétrole, c'est qu'il faut quand même trouver des solutions. Et donc ça, c'est l'affaire du citoyen.
C'est ça. On peut pas dire on est contre le gaz de schiste et rien proposer d'autre, quoi. Parce que en fait, les foreurs et le gouvernement nous rétorquent. On a une richesse sous nos pieds. On devient pauvre en énergie. Donc il faut qu'on aille la chercher. Et nous, ce qu'on dit, donc, c'est que c'est les citoyens qui doivent s'approprier le débat de la transition énergétique, en fait. Donc on va, pendant cette deuxième année de lutte qui va commencer bientôt, on va engager un débat sur l'avenir énergétique, sur quel avenir énergétique nous voulons, sans être partisans, en laissant tout le monde s'exprimer et en essayant de trouver des solutions. Il y en a, en essayant de trouver des solutions qui satisfassent le plus grand nombre.
Vous dites par exemple aussi, j'ai vu quelques articles, que le nucléaire, alors on va laisser de côté le problème évident de Fukushima, etc., c'est que le nucléaire pêche également, puisqu'il est basé sur une énergie non renouvelable, puisqu'il est basé sur une énergie fossile, qui est l'uranium, le minerai.
Voilà, ça, on nous le cache beaucoup. On nous dit une énergie gratuite, simple, pérenne, mais en fait, ce que nous dit pas ni Areva, ni EDF, ni le gouvernement, c'est qu'on est dépendant de l'extraction du minerai et que ce minerai, il n'y en a plus beaucoup,
qu'il
est extrait au Niger dans des conditions assez catastrophiques. On a vu des agents d'Areva être faits prisonniers d'Al-Qaïda, enfin, au Maghreb.
N'oublions pas qu'il faut une force française importante pour protéger Areva.
Autour de la mine, il y a une force française importante.
Et il coûte de l'argent.
Je pense que dans le coût du nucléaire, on compte pas vraiment le coût de cette force, de la même manière qu'on compte pas la force présente autour de Flamanville pour empêcher l'accès. Ça rentre sûrement pas dans les budgets.
Mais c'est vrai qu'en plus, on voit les problèmes financiers d'Areva à l'heure actuelle, qui sont liés aussi à certaines obligations maintenant qu'impose l'État sur la sécurité des centrales. On a vu l'exemple de Fukushima. Et puis, bien sûr, il y a en Allemagne, la filière nucléaire va s'arrêter.
Et donc c'est vrai que... Et le nucléaire, qui jusqu'à présent, on nous disait que c'était une énergie pas chère, je pense que quand on va petit à petit parler du démantèlement de certaines centrales qui sera obligatoire, qu'on le veuille ou non, puisqu'elles arriveront en fin de vie.
Et qui fera du boulot d'ailleurs,
qu'on va parler aussi de la mise aux normes des centrales qui sont demandées donc par la commission qui a été nommée récemment après Fukushima, ça va, je crois, très sérieusement augmenter le coût du nucléaire.
Alors il y a un petit paradoxe aussi, c'est que Total, qui est comme votre grand ennemi, est un groupe gigantesque et qui est un groupe sur l'énergie finalement, et Total n'a jamais mis, semble-t-il, un euro ni un dollar dans le nucléaire.
Total, je crois qu'ils ont une vue plus lointaine, en fait. Je pense que le nucléaire, c'est quelque chose pour eux qui est en voie d'extinction, de la même manière que le pétrole. Et Total est en train d'investir, par exemple, très très fortement dans des laboratoires qui font de la recherche sur l'hydrogène, par exemple.
La pile à hydrogène.
Et donc, je pense qu'ils ont une longueur d'avance.
Et le problème, c'est qu'ils sont toujours en longueur d'avance sur les combats.
Et donc, on court vite.
Mais je crois que le collectif va très très vite aussi. Merci Paul. Paul Reynard du collectif 07. Voilà, c'était Touche pas à mon schiste. Émission bimensuelle. Thierry Gauthier au micro. Merci à tous.
Merci Thierry.